La chronique santé. Dernière série sur la DMLA avec le professeur Kodjikian. Il est chef de service adjoint en ophtalmologie au CHU de la Croix-Rousse des Hospices Civils de Lyon, mais il est également secrétaire général adjoint de la Société française d'ophtalmologie. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors, on a parlé des signes qui devaient inquiéter et susciter de notre part le besoin d'aller aux urgences. On les trouve où ces urgences? C'est les urgences des hôpitaux ou il y a des urgences ophtalmologiques?
Alors, en pratique, le patient qui a son ophtalmologiste, je lui conseille sur l'idée même de téléphoner à son ophtalmologiste. Et en général, s'il dit qu'il a une baisse de vision brutale, qu'il a des déformations visuelles brutales, l'ophtalmologiste va le recevoir. Mais bien sûr qu'il est aussi le bienvenu potentiellement au service d'urgence des hospices civils de Lyon, c'est-à-dire à l'hôpital, clairement. Donc notamment, par exemple, à l'hôpital de la Croix-Rousse dans mon service. Maintenant, ça va dépendre bien sûr des horaires et du moment si le patient veut consulter.
Oui, s'il consulte la nuit ou
s'il consulte
le
dimanche, c'est vrai que le dimanche, c'est à l'hôpital Édouard Herriot et c'est aucun cabinet de ville qui sera ouvert, par exemple.
Alors, quels sont les traitements futurs? On a parlé des traitements actuels. Quels sont les traitements futurs? Vers quoi on tend pour essayer de résoudre cette maladie?
Alors, c'est vrai que c'est important de le dire à nos patients parce que nos patients nous demandent beaucoup est-ce qu'il y a d'autres traitements qui arrivent, etc. Il y a beaucoup de recherches fondamentales et surtout de recherches cliniques sur la DMLA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire et il y a un véritable espoir pour l'avenir. Même si ce qu'on fait est plutôt pas mal, il y a quand même un espoir pour l'avenir de faire encore mieux. Nous, par exemple, à l'hôpital de la Croix-Rousse, moi dans mon service, j'ai un service de recherche clinique au sein du département d'ophtalmologie et j'ai 3 attachés de recherche clinique que je finance sur mes propres fonds. Ce ne sont pas les hospices civils de Lyon qui les payent. C'est moi par rapport aux études cliniques, que l'argent qui est rapporté par les études cliniques et aussi potentiellement le don que certains patients peuvent faire par le cadre de la fondation des hospices civils de Lyon. Donc ces études de recherche clinique, on en a une vingtaine actuellement, nous permettent d'étudier quoi comme type de molécules. Et encore, il y a d'autres molécules qui vont arriver. En DMLA exudative, on a de nouveaux produits qui vont arriver toujours par injection intravitréenne avec d'autres mécanismes d'action. Et d'une part, on aura peut-être une meilleure efficacité et d'autre part aussi, ça nous permettra d'allonger la durée entre 2 injections intravitréennes. Donc finalement, de diminuer le fardeau pour nos patients. Mais on va peut-être pouvoir diminuer encore plus le fardeau parce qu'il y a d'autres molécules qui arrivent. Une qui est plutôt pas mal avancée par voie de colire, par goutte. Ce serait formidable, hein, ça éviterait de piquer les gens. Et puis une autre qui serait par voie orale, un comprimé par la bouche à prendre. Donc vraiment de l'espoir. Sur la DMLA atrophique, la molécule qui était le plus avancée était par injection intravitréenne. On a inclus beaucoup de patients dans cette étude, dans cette étude-là. Et comme je vous le disais, il y a quelques semaines, il y a eu lieu un congrès international début septembre en Espagne, auquel j'ai assisté. Et malheureusement, on a eu les résultats d'une des 2 études qui utilisaient cette molécule-là, qui n'a pas permis d'atteindre le critère principal. Alors, on n'a pas beaucoup plus de détails. Rien n'est encore enterré, parce qu'il y a une deuxième étude qui doit sortir mi-novembre à l'Académie américaine, aux États-Unis, à laquelle j'irai pour écouter justement ces résultats-là. Donc on espère que peut-être la deuxième étude arrivera à recentrer. Peut-être que finalement, même si le critère principal global n'est pas atteint, peut-être qu'on va trouver un sous-groupe de patients pour lequel c'est utile. Mais c'est vrai qu'on était un peu tous déçus dans la communauté ophtalmologique, bien sûr pour nos patients, de ne pas avoir cette molécule qui aboutit un peu plus loin. Mais c'est bien sûr que c'est grave, mais potentiellement néanmoins, il y a d'autres molécules qui sont en cours de recherche aussi d'un DMLA atrophique.
J'aimerais qu'on revienne pour finir sur les choses qu'il faut faire pour prévenir cette DMLA. Je crois qu'on n'a pas assez parlé de l'importance du sport aussi. C'est quelque chose...
Oui, il faut faire de l'exercice physique. La magie du mouvement, vous direz certains. Il faut lutter contre l'obésité abdominale. Il faut bien manger des fruits, des légumes, des poissons gras. Éviter les viandes, donc tous les acides gras saturés, les oméga 6 qu'on retrouve dans la viande rouge. Merci. Dans les charcuteries notamment. ne pas fumer, je sais pas si je l'ai dit, mais je
vous l'avez dit,
si
j'ai dit, mais c'est pas grave.
Je peux le répéter. Voilà, tout ça, c'est des choses vraiment très importantes.
Avoir une vie la plus saine
possible.
Oui,
la plus saine possible. Et puis après, vous pouvez trouver dans le commerce ce qu'on appelle des alicaments qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, c'est-à-dire qui vous apportent justement ces antioxydants, ces oméga 3, ces pigments maculaires. On en prescrit à nos patients qui ont une DMLA, bien sûr, en plus de ce régime alimentaire. Cette hygiène de vie.
Je vous remercie beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes chef de service adjoint en ophtalmologie au CHU de la Croix-Rousse, des Hospices Civils de Lyon, et secrétaire général adjoint de la Société française d'ophtalmologie. Bonne fin de journée. Au revoir.
Merci, au revoir.